Je vais commencer par lire dans la première épître à Timothée, paragraphe auquel il a été fait allusion dans la prière, à partir du verset 12. Première épître à Timothée, verset 12, chapitre 1er, verset 12. On entend mieux là? Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié, de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montrât toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et puis, au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 5 d'abord, « Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Verset 10, « Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il y aura d'autres passages après. D'abord, quant à ces deux passages, je ne vais pas les prendre dans le détail, mais je voudrais m'arrêter dans la première épître à Timothée, le verset 15. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Voilà pourquoi le Seigneur est venu. Un aspect du pourquoi le Seigneur est venu. Pour sauver les pécheurs. Et dans ce verset, il n'y a aucune distinction qui est faite entre les catégories d'hommes. Les pécheurs, c'est un nom générique, synonyme de les hommes dans leur état, sans Dieu, loin de Dieu. On reviendra à ce qui est autour dans ce passage, et si on prend dans le début de l'évangile de Jean, le verset 5 met le contraste entre lumière et ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il s'agit plus tant de personnes, comme dans 1 Timothée 1, les pécheurs, mais il s'agit d'un état moral. Il y a la lumière, Dieu se révélant dans ce qu'il est, dans sa nature même, et il y a l'homme dans le péché, dans son caractère moral de ténèbres. Et là, il y a une chose surprenante. Les enfants peuvent bien comprendre ça. Si je suis dans une pièce obscure et que j'allume une lampe, ben là où ma lampe est allumée, là où elle est claire, il va y avoir la lumière qui éclaire. Et on va voir les objets. Et plus on approche la lampe, ou plus on met la lampe fort, plus on verra de détails. Mais c'est parfois une impression qu'on a, en hiver plus particulièrement, ou à d'autres saisons, quand il n'y a pas de lune la nuit, ça dépend un peu du temps qu'il fait, de choses comme ça, et puis aussi d'une impression personnelle. On éclaire et puis on a l'impression que l'obscurité absorbe la lumière et qu'il n'y a aucun détail qui ressorte. C'est particulièrement vrai si on a du brouillard. On éclaire, on a beau éclairer et puis on ne voit pas mieux. C'est comme si la lumière était absorbée par les ténèbres ou était refusée par les ténèbres. Et c'est un peu ce qui est exprimé là. Les ténèbres ne l'ont pas comprise. La lumière a lui dans les ténèbres, et puis c'est comme si cette lumière, dans une première approche, n'avait pas d'effet. Elle n'éclaire pas. On ne voit pas plus de détails, si les objets ne sont pas rendus plus nets, ceux ne sont pas rendus visibles, on ne voit pas. Alors là, on est dans un registre moral et pas physique. Les ténèbres ne l'ont pas comprise. Le problème, ce n'est pas la lumière. Le problème, c'est ce qui a ce caractère de ténèbres, qui n'est pas capable et qui ne veut pas recevoir ce qui est lumière. C'est exprimé de manière plus explicite, plus loin, au verset 10, où on a versets 10 et 11 qui nous donnent comme une vision globale, puis après une vision plus restreinte. D'une manière générale, il était dans le monde, il ou elle, il, la parole, le verbe, ou elle, la lumière, la parole. Il y a, pas la confusion, mais la possibilité est gardée dans la manière dont c'est exprimé de le regarder sous les différents aspects dont le Seigneur, dont Dieu lui-même est introduit dans le début de ce chapitre, dans ce « il ». Mais bien sûr, on voit le Seigneur parce qu'il était dans le monde, venu comme homme, c'est le Seigneur. Il était dans le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il était dans le monde, il est venu se manifester sous une forme que l'homme pourrait percevoir. Et pourtant, alors même qu'il est celui qui est l'auteur de toutes choses. Et on a là un résumé du Seigneur, en début d'évangile, on a un résumé de la manière dont le Seigneur s'est présenté à travers tout l'évangile. Mais tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, parlait de ce qu'il est. Et pourtant, c'est quoi la conclusion ? Le monde ne l'a pas connu. Le monde, le mot qui est utilisé là, nous parle du monde dans le sens de toute l'humanité. Tous les hommes. Ce n'est pas le monde vraiment en tant que système qui ne veut pas de Dieu, c'est plutôt les hommes tels qu'ils sont, descendants d'Adam. Ils ne l'ont pas connu. Connaître quelqu'un, c'est l'avoir approché, l'avoir écouté, lui avoir parlé, avoir eu une interaction avec cette personne, et pas juste une interaction superficielle. On ne connaît pas quelqu'un qu'on a vu une fois pendant 2 minutes. On ne peut pas dire qu'on connaît cette personne. On sait qui elle est, puis c'est tout. Mais on ne la connaît pas. Quand on connaît quelqu'un, c'est que on a pris du temps, on a pris sur soi, on a pris de l'énergie pour s'intéresser à elle, pour la découvrir. Et alors, à un moment, petit à petit, on apprend à la connaître. Voilà, le monde ne l'a pas connue. Le verset 11 va plus loin en précisant une portion de ce qui est appelé monde. Dans le verset 10, il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Là maintenant, on entre dans le contexte d'Israël, peuple de Dieu, peuple mis à part, par Dieu, pour lui. peuple privilégié dont Dieu s'est particulièrement occupé. On peut relire, on peut relire dans le Deutéronome en particulier. Aussi, on peut peut-être juste lire quelques versets au début du Deutéronome. Chapitre 7. Chapitre 7 du Deutéronome au verset 7. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la main du Pharaon, roi et t'a racheté de la maison de servitude de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Remarquons comment on passe du « vous » au début, collectif, au « tu » qui t'a racheté. Il vous a aimé, qu'il t'a racheté. On passe d'un « vous » général à un « tu » intime. Et voilà, ce n'est pas parce que vous êtes quelque chose de remarquable. Vous n'étiez pas plus nombreux, vous n'étiez pas plus grand, pas plus intéressant, pas plus intéressé par moi. Non, c'est parce que l'Éternel vous a aimé. Donc un peuple mis à part, il vint chez soi, et là, surtout ça frappe d'autant plus quand on vient de lire ce passage du Deutéronome, et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Ce n'est même pas une question de connaître. Israël avait tous les éléments pour connaître Dieu. Il avait tous les éléments pour pouvoir reconnaître le Seigneur comme le Messie le jour où il viendrait. Le Messie était annoncé, ce qu'il ferait, ce qu'il serait, était annoncé. Ils ne l'ont pas reçu. Autrement dit, il y a cette expression qui est dans le langage juridique, persona non grata, personne non désirable. Il y a une époque où c'était quelque chose qui pouvait se faire tamponner sur un passeport. Quand une personne n'avait plus le droit de venir dans un pays, on mettait un tampon avec les cachets qu'il faut pour le pays qui signait ça, persona non grata. Donc si on arrivait à la frontière avec un passeport pareil, les douaniers vous repoussaient, refoulaient, interdiction d'entrée. Mais au fond, c'est la manière, dans un sens, dont le Seigneur a été reçu. Alors si on revient à l'apôtre Paul en 1 Timothée, l'apôtre exprime au fond, à travers ce qu'il dit dans ce paragraphe, qu'il s'intègre lui-même entièrement dans ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur a usé de grâce. Pourtant, quand il dit, verset 12, « Je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié, de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais. » Auparavant et après. Il y a un auparavant et puis il y a un maintenant. Et le auparavant s'opposait entièrement à ce qu'il y a dans le maintenant. Auparavant, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un outrageux. Connaissons l'histoire de l'apôtre Paul, comment, à une autre occasion, il dit qu'il avait du zèle pour Dieu, qu'il croyait bien faire en persécutant les chrétiens. Il croyait servir Dieu. Il rend ce témoignage dans les Romains sur Israël, qui croyait servir Dieu, qui avait du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance, sous-entendu, la connaissance de ce que Dieu est. Et pourtant, Dieu a usé de grâce. Il m'a estimé fidèle, il m'a fortifié, il m'a estimé fidèle, il m'a établi dans le service. Et cela pourquoi ? parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Sous la croix, le Seigneur dit, fais cette prière, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'ignorance. Si on reprend juste un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 12, je crois. Fin du chapitre 11, où il nous est parlé du Sanhédrin, des pharisiens, des chefs du peuple qui se réunissent à cause de ce qui venait de se passer avec la résurrection de Lazare, verset 49. L'un d'entre eux, appelé Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous ne savez rien, ni ne considérez qu'il nous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. » Voilà un homme qui, dans l'ignorance de ce qu'il disait, prophétise, parle de la part de Dieu, pour annoncer ce qui va se passer. Il pensait pouvoir se débarrasser de ce gêneur pour éviter qu'ils aient des ennuis en tant que peuple juif avec les Romains. Et il ne réalise pas du tout. Il est complètement ignorant qu'il fallait que le Seigneur meure. Qu'il était simplement en train d'engager la mise en action de quelque chose qui devait arriver. Qui était le plan de Dieu? Il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Beaucoup plus encore que ce que, à la limite, il aurait pu. Non, il n'aurait pas pu. Les disciples eux-mêmes ne l'ont pas compris. Dans l'ignorance, dans l'incrédulité. C'est solennel ce parallèle que fait Paul entre ignorance et incrédulité. L'incrédulité est de l'ignorance. L'incrédulité, c'est une manière de ne pas connaître, de manifester qu'on ne connaît pas qui est Dieu. Et inversement, l'ignorance de Dieu amène à mettre Dieu de côté, amène à une attitude, à une marche, à une pensée qui est incrédule. Mais on a cette intercession du Seigneur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a besoin de pardon. Il y a besoin de pardon pour cela. Alors le verset 14, « La grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. » La grâce de notre Seigneur a surabondé. Là où il y avait de telles ténèbres, un tel refus, une telle ignorance, une telle méconnaissance, il n'y a que la grâce qui peut être l'issue. Et la grâce, c'est quoi? On a toujours besoin de se rappeler ce que c'est que la grâce. Et en particulier, de saisir et de se rappeler la différence qu'il y a entre la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Nous avons besoin des deux. Alors quand on donne une définition, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, parce que quand on donne une définition, c'est un peu abstrait. Alors on dit comme définition, la miséricorde tient compte de notre état. C'est le regard de compassion en tenant compte de notre état. La grâce aussi, elle tient compte de notre état, mais pas de la même manière. Et on a cette histoire qu'on retrouve, la plupart d'entre nous connaissons, mais qui est utile à rappeler, si ce n'est que pour les plus jeunes. Comme enfant, ça nous arrive de rater des choses, de faire des bêtises par maladresse, par parce qu'on a voulu faire trop vite, parce qu'on a voulu faire quelque chose, on voulait bien faire, mais on n'a pas réfléchi, et puis ça se termine en une catastrophe. Et alors, maman ou papa, ils viennent, et ils voient la catastrophe. Bien sûr, ils vont un peu gronder, mais en même temps, on sait qu'il y avait une bonne intention. On sait que ce n'était que de la maladresse. Alors cette maladresse, elle est peut-être fréquente. Alors on dit, mais on te rappelle toujours de faire manger. On te rappelle toujours, mais voilà. Et on tient compte des limitations, de la faiblesse, d'une tension du moment qui fait que les choses sont allées trop vite. Et on pardonne. Ça, c'est plutôt le côté de la miséricorde. La grâce, c'est plutôt une autre situation. Je sais pertinemment que maman ou papa ne permettent pas ceci. Et j'ai quand même envie de le faire. Et je sais pertinemment qu'ils ne seront pas contents si je le fais. Et j'ai quand même envie de le faire. Et puis voilà, je le fais quand même. Je désobéis franchement. Et quand je me fais gronder, je commence par mentir en disant « c'est pas vrai, c'est pas moi, ou je l'ai pas fait ». Et puis les choses vont plus loin, et puis en fin de compte, je suis puni. Parce que j'ai fait ce que je ne devais pas faire, et qu'en plus, j'ai voulu le cacher, ou ceci ou cela. Je suis pleinement coupable. Et puis il y a un moment où je me rends compte que je suis pleinement coupable. Et je le reconnais. Oui, je suis pleinement coupable. Je mérite cette punition. Et alors, maman, papa, ils peuvent venir, et ils peuvent consoler, et ils peuvent dire, c'est réglé. Ça, c'est la grâce. La grâce répond à la culpabilité. La miséricorde répond à la faiblesse. La grâce de notre Seigneur a surabondé. C'est frappant que là, alors qu'il est parlé d'incrédulité, d'ignorance, avant, il était parlé de miséricorde. Maintenant, il est parlé de grâce. Et nous avons besoin des deux choses. Et Dieu agit en miséricorde et en grâce. Et il est dit que la grâce a surabondé. Donc, il n'y a pas eu une petite mesure de grâce, mais une grande mesure de grâce, plus encore que tout ce qu'on pouvait imaginer. Avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Avec la foi, cette pleine réception de celui qui se fait connaître à nous, il n'est plus question d'incrédulité, il est question de foi, et l'amour qui nous parle d'une relation libre où le cœur a sa place, où toutes les affections ont leur place, où il y a un lien fort qui repousse loin tout ce qui était des barrières, tout ce qui était des hésitations, tout ce qui était des obstacles, comme l'ignorance ou comme une culpabilité, comme ça. Alors, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Au début du verset, il est parlé de notre Seigneur. À la fin, il est parlé de son nom et de ce qu'il est. De ce qu'il est, Paul est un juif qui parle à l'origine, pour qui le Christ, le Messie, est important. Il a reconnu en Jésus le Messie, qu'il a reconnu comme son Seigneur. Et alors il introduit ce verset du Seigneur qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et Paul peut ajouter, dont moi je suis le premier. Ailleurs il dit, parce que j'ai persécuté l'Assemblée. Miséricorde m'a été faite, verset 16, pour autre chose. Il y a un parce que et il y a un pour que. Parce que j'ai agi dans l'ignorance et dans l'incrédulité, pour que, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montrât toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. En Paul, le Seigneur illustre jusqu'où va son pardon, jusqu'où va sa miséricorde et sa grâce. Celui qui persécutait les chrétiens, à qui le Seigneur peut dire « Pourquoi me persécutes-tu ?» est devenu, on a vu avant, « Il m'a établi dans le service ». On a ça dans le livre des Actes, après la conversion de Paul, ce bruit qui court, qui se met à courir parmi les croyants. Où est-ce que c'est nouveau ? Ah, c'est pas dans le passage que je croyais. Quelque part, il est dit, celui qui persécute... Ouais, c'est... Est-ce que dans les Galates, peut-être qu'il le rapporte. Je trouve de mémoire. Voilà, oui, c'est dans les Galates. Galates 1, verset 22. J'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ, mais seulement elles entendaient dire « Celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis, et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. » Deux effets, elles glorifiaient Dieu, et puis un exemple pour tout pécheur. Il y a ce récit de l'évangéliste Spurgeon au siècle, 19e siècle, qui devait présenter l'Évangile dans une salle et qui voulait essayer comment parler sur cette salle. Il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas de sonorisation à l'époque. Donc, ses frères qui présentaient l'Évangile dans des grandes salles avec des milliers de personnes devaient parler en conséquence. Et il était seul dans cette salle vide et il a cité ce verset. Il a dit ce verset pour écouter comment la salle résonnait. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Et il y avait un ouvrier qui faisait une réparation quelque part dans la salle, qui ne savait pas ça, que quelqu'un devait venir, et qui a entendu brusquement cette voix, et qui a été travaillé jusqu'à être amené à se convertir. Un exemple de Paul. Alors maintenant, si je voudrais encore rajouter quelque chose sur un aspect, un autre aspect. Dans ce début de Jean, quand il nous est dit « Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu ». Quand nous lisons les évangiles, nous voyons très vite ces deux catégories de personnes, trois catégories de personnes qui se dégage de tous ceux que l'on voit, de toutes ces foules qui viennent écouter, suivre le Seigneur. La première catégorie, ceux qu'on trouve au début de Luc, qu'on trouve au début de Jean, ceux qui étaient venus au baptême de Jean, ou qui attendaient le Messie. Des Juifs pieux, qui craignaient Dieu, et qui... espéraient ce moment qui, pour certains, on pense à Siméon, il leur avait été révélé qu'ils verraient quelque chose. Et puis, ceux qui sont venus à la prédication de Jean se faire baptiser au Jourdain en repentance de leurs péchés, préparer le chemin du Seigneur. Et puis après, parmi ceux-là, les disciples, les 12 et d'autres, les 12 que le Seigneur a choisis et d'autres qui suivaient le Seigneur pendant tout son chemin. À l'inverse, on a cette deuxième catégorie qui se dégage et qui se démarque de plus en plus au fur et à mesure que le Seigneur avance dans son service, ceux qui s'opposent, ceux qui ne veulent pas. Ceux qui ne veulent pas une remise en question de leur position sociale, de leur manière de penser, de leur pouvoir, de plein d'autres choses, de leurs idées, des idées qu'ils avaient dont la manière et les choses devraient se passer quand le Messie viendra. Et puis une troisième groupe, ce qu'on appelle les foules, qui est quelque chose d'indéfini, un mélange de personnes qui écoutaient, qui recevaient, ou qui écoutaient et étaient critiques, ou qui tantôt étaient intéressées, puis tantôt étaient rebutées, et puis qui un jour acclament le Seigneur quand il arrive à Jérusalem, et qui, quelques jours plus tard, crient avec les chefs du peuple, « Crucifie-le, crucifie-le ». Et les foules, c'est quelque chose d'indéfini. Ce n'étaient pas forcément les mêmes personnes. On voit bien, par exemple, un Joseph d'Arimathée. Il était du Sanhédrin, membre du Sanhédrin, mais il est dit il ne s'était pas joint à leur conseil. Donc, voilà, trois groupes. Jean résume ça. Il vient chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. À la croix, nous connaissons bien ce qui s'est passé pour Pierre. Et nous avons peut-être ce qui s'est passé pour Pierre quand il a renié le Seigneur, et quelque chose de tellement frappant que la parole nous dit, avec bien des détails, qu'on a peut-être tendance à oublier qu'il nous a aussi dit des autres disciples qu'ils ont tous laissé. Ils ont tous abandonné le Seigneur. Le Seigneur s'est retrouvé seul. Alors pourquoi je lis ça? Pourquoi je relève ces choses-là? Parce que je voudrais lire dans l'Épître aux Romains deux passages dont il nous faut être vraiment imprégnés pour jouir pleinement et pour pouvoir marcher dans cette grâce et dans cette miséricorde de Dieu. Le premier passage, au chapitre 3. Après, alors qu'au premier chapitre, fin du premier chapitre, l'apôtre présente l'état des hommes sans Dieu, s'éloignant toujours plus de Dieu, qu'au chapitre 2 et au chapitre, début du chapitre 3, il présente la situation des Juifs. Qu'en est-il d'eux? Au verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Le « nous », il s'agit là des Juifs. Nullement, car nous avons aussi devant accuser les Juifs et Grecs d'être tous sous le péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul, il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles, il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier, ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sur leurs lèvres, et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang, la destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui, devant Dieu, par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Un triste paragraphe, je dirais presque un peu pénible à lire. Personne, nul. Ces mots qui reviennent tout au long. Mais voilà l'état de ce qu'est l'homme. Voilà l'état de ce qu'est le cœur de l'homme, qu'il soit juif ou qu'il soit grec, qu'il soit pharisien, qu'il soit des foules ou qu'il soit des disciples. Voilà l'état naturel du cœur de l'homme. Est-ce que nous en sommes bien convaincus, chacun pour lui-même? Bien sûr, on prend cette liste, et il y a d'autres listes du même genre. Si on prend la liste de la fin du chapitre 1er, où il y a une liste qui est un autre caractère, parce qu'elle concerne les nations, et pas là, ce sont toutes des citations de l'Ancien Testament. Ça, c'est quelque chose qui s'adresse plus particulièrement aux Juifs. La fin du chapitre 1er s'adresse plus particulièrement à tout homme, le monde ou les siens, ce qu'on a vu dans Jean 1. Ben, bien sûr, nous ne sommes pas concernés par chacune de ces choses. Mais ailleurs, il nous est dit qu'une seule chose suffit. La transgression sur un seul commandement suffit pour être loin de Dieu. Donc voilà l'état. Et alors le deuxième passage, c'est un peu plus loin dans le cheminement qu'on fait dans cette épître. Elle concerne le croyant qui est venu à Dieu, qui a été instruit, qui a saisi des choses par la foi, qui a compris des choses, mais qui malheureusement, au chapitre 7, doit constater, je ne dis que le verset 18, il faudrait lire tout l'ensemble, et là j'ai pas le temps, n'est pas le sujet non plus, de revoir tout le contexte. Verset 18, « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela, je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Surtout la première partie du verset 18, « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. » Au chapitre 3, c'était une interpellation. Ici, c'est les réflexions intérieures d'un croyant qui voit. Je vais le dire d'une mauvaise façon, d'abord. Qui voit ce qu'il fait dans la pratique. Pourquoi est-ce que je dis là, que dit comme ça, c'est une mauvaise façon de le dire? Parce qu'il n'est pas dit, car je sais qu'en moi, il n'habite pas de bien. Il est dit, je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Moi et ma chair, si je peux dire, c'est deux choses que je dois distinguer. Ma chair, c'est moi dans le vieil homme, en Adam, sans Christ. Ma chair est incapable de faire le bien. Moi, en Adam, je suis incapable de faire le bien. Mais en Christ, tout devient différent. Tout devient différent, et si on tourne la page, vers chapitre 8, commence, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Et alors, quand on passe de l'un à l'autre, il n'y a plus rien de moi, et il y a tout qui est de lui, il y a tout qui provient de lui, il y a tout que nous lui devons. On revient sur 1 Timothée 1, et on arrive avec ça au verset 17, « Qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Miséricorde m'a été faite, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour. Cette parole est certaine. » Verset 16, encore une fois, « Mais miséricorde m'a été faite. Or qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Pour goûter pleinement à cette grâce de Dieu, il nous faut être convaincus, d'une part, et avoir saisi cette libération, d'autre part, quant à ce que nous sommes dans la chair, quant à ce que chacun, quel que soit notre chemin, nous avons besoin de la même grâce, de la même miséricorde. Les disciples qui ont suivi le Seigneur pendant ces 3 années avaient besoin de la même grâce qu'un pharisien qui aurait mis sa voix pour que le Seigneur soit mis à mort et qui se serait converti à la réunion, au discours de Pierre, au début des Actes. Leur cœur est le même, le pardon, nécessaire et le pardon donné est le même. Qu'au roi des siècles, incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. À lui revient toute la gloire, tout l'honneur, toute la reconnaissance de nos cœurs. Notre reconnaissance sera à la hauteur de ce que nous apprécions. L'œuvre du Seigneur, dans toute sa grandeur, dans ce que cela a été pour lui, de faire ce chemin, jusqu'à la croix, jusqu'à ses heures d'abandon, et cela pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous placer dans cette pleine lumière, nous faire goûter son amour, nous faire goûter sa grâce.